Vous trouvez, il n'y a pas de sono, il n'y a pas de micro, donc on va tenter de la faire pas trop longue et on va tenter de crier pour que tout le monde puisse entendre. Je voulais d'abord, avant toute chose, avant d'entamer cette première conférence de presse Légende Big Bastogne 2025, remercier celui qui s'en va en courant là-bas dans l'escalier, Angelo Desire, monsieur Andes Motorsport, de nous accueillir ici. On voulait un cadre un peu différent, qui fasse compétition, qui fasse rallye, qui fasse les gens de boucle, et surtout également un peu braquer les projecteurs sur Andes Motorsport. Alors ça peut ressembler à un préparateur de voiture qui évolue dans des compétitions historiques régionales. Je peux vous dire que ce garçon, il a une grande notoriété internationale au niveau des escortes Mark 1 et Mark 2, et que la boîte ici, Andes Motorsport, au bord de cette route de marche, ici à Barbeau, eh bien, c'est une boîte qui est de réputation internationale, véritablement. Et on tenait à mettre cela en évidence. Il était encore avec Eric Dutoit et d'autres autour de Corse Historique récemment. Il vend des voitures un peu partout, des escortes Mark 1, Mark 2. Non, des escortes Mark 1, Mark 2, on ne peut pas parler d'autre chose. Et voilà, donc merci à Angelo de nous accueillir ici, merci à son équipe de fidèles mécanos. Ils ont mis un peu de l'ordre dans l'atelier, rafraîchi tout ça, et c'est absolument parfait, ça respire la passion aussi. Bon, on est parti pour une nouvelle édition 2025 des Légendes Boucles à Bastogne. Alors vous allez me dire, bah, d'une édition à l'autre, ça reste les Légendes Boucles, etc. Bah, il se fait que cette année, il y a pas mal de nouveautés, en fait, à bien des niveaux d'ailleurs, dans ces Légendes Boucles. Alors on vous rassure, on fait toujours dans la voiture ancienne, mais on va vous présenter des choses qui changent, et c'est principalement Pierre d'ailleurs, puisqu'au niveau... engagement, ça s'ouvrira le 1er novembre, comme le veut la tradition, bien évidemment, mais c'est essentiellement Pierre qui va vous présenter tout cela. Pierre.
Merci Vincent et merci Angelo, hein, que je connais bien aussi, forcément. Vous savez que j'ai succombé à la passion aussi de l'autre côté de la barrière et que c'est Angelo et son équipe qui me fait ma petite MK1. Et donc, on est là pour parler évidemment des Legends. Et donc, aussi, première nouveauté, c'est que par rapport au passé, on vous présentait l'affiche au dernier moment, et cette année, on va faire une affiche évolutive, voyez-vous. Et donc, voici la version numéro 1, mais qui est appelée à évoluer. La base, évidemment, ben, c'est une voiture d'Andes Motorsport de nouveau. C'est celle de Cédric Serin lors de l'édition 2024. Et je pense que la spéciale, sans trop me tromper, la famille Glaude peut me confirmer, ça ressemble furieusement à Églantine quand même, hein, au niveau des tracés. Mais ça, c'est une super photo, en tout cas, qui illustre très bien ce qu'est les Legends à Bastogne, le rack belge, les spéciales en forêt. Et donc, ben, voilà, me voici et justement, on va commencer à parler du parcours. Et donc là, c'est un des premiers changements qui est opéré. C'est qu'en fait, on va diminuer le nombre d'étapes différentes, mais néanmoins, assez bizarrement, nous aurons à peu près une vingtaine de kilomètres de plus de spécial à faire. Quand on est pilote, je sais moi-même, on fait un ratio au coût kilomètres parcourus. Et donc, en faisant 20 km de plus, c'est gagnant pour tout le monde. Et surtout que nous avions l'habitude de faire une longue le dimanche. En effet, il y aura toujours bien une longue en ligne, pas des spéciales chauds. Je précise parce qu'il y a des gens, des confrères qui présentent « Ah oui, je fais une spéciale de 15, 20 km. » Mais quand on fait 3 tours de 7 km, plus 2 km, ce n'est pas du tout la même chose. Donc nous, on aura une vraie de 30 km en forêt le dimanche. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'on va faire une de 25 km le samedi et qu'on fait à deux reprises. Donc là, aussi de longues étapes, je pense que c'est pour le plaisir du pilote. C'est quelque chose de très important. Et alors, nous avons aussi un changement au niveau de la conception générale du rallye. C'est qu'avant, on avait fait un rallye asphalte samedi et un rallye terre dimanche. Ici, on va revenir plus sur du mixte. Bien entendu, le samedi, ce sera à grande majorité asphalte, mais il y aura un retour de certains morceaux de terre, de bonne terre. Ce que, suite à l'expérience de 2024 et qu'on a vu qu'il commençait à avoir des autos spécifiquement préparées pour le dimanche, ça fait monter les coûts et tout. Et donc, nous, on préfère avoir des voitures mixtes que commencer à faire une voiture pour le samedi et une voiture pour le dimanche. C'est aussi un paramètre de gestion des coûts. Et donc, le dimanche aussi, on a tenu compte des remarques des uns et des autres. Et il faut bien l'avouer que les chemins en prairie, la terre se dégrade très fort, surtout qu'au mois de février. Et donc, on était en train de perdre des concurrents parce qu'ils n'avaient pas envie d'abîmer leur auto dans les mauvais chemins de terre le dimanche. Il est clair qu'en plus, rouler en dépit de clôture, ça se fait partout ailleurs en Belgique, que ce soit sur des manches du national ou du provincial. Vous faites un travers, vous avez vite fait une aile. Je sais ce que c'est le coup d'une aile, merci. Donc, ça n'apporte pas grand-chose, surtout quand vous êtes dans des ornières. Nous, est-ce qu'on a toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et que la photo illustre bien, Bastogne, ça se veut être le rack belge. Et donc, le rack, c'est en forêt et pas dans des chemins de terre. Et c'est pour ça que nous aurons, l'année dernière, nous avions deux forêts. On repasse à trois forêts, parce qu'il y avait, c'est vrai, cinq étapes le dimanche l'année dernière différentes, mais il n'y avait plus que deux vraies forêts. Les trois autres étaient des spéciales dans les chemins de prairie. Donc, nous aurons trois vraies forêts. Et alors, une quatrième que nous parcourrons pour les Legends et les Challengers à deux reprises, qui sera une spéciale asphalte. Pour ça aussi, de pouvoir éviter d'avoir des voitures typiquement préparées, version asphalte pour le samedi et version terre pour le dimanche. Savoir que contrairement à beaucoup d'épreuves, nous n'avons pas de parc fermé entre les deux nuits du rallye. C'est un choix délibéré parce que aussi on essaie que les gens aillent le plus loin possible et donc puissent pouvoir réparer leurs autos parce qu'ils ne sont pas dans le cadre d'aucun championnat et le but recherché avant tout et pour tout le monde, c'est de pouvoir en retirer un maximum de plaisir. Et donc, pour des plus petites équipes qui ont un problème de boîte de vitesse, qui ne savent pas la changer en 20 minutes et que ça leur pose beaucoup de problèmes, c'est pour ça qu'on ne fait pas de parc fermé, qui peuvent remettre en état la voiture pour rouler le dimanche. Mais d'un autre côté, les équipes les plus aguerries, évidemment, la dérive faisait qu'on changeait toutes les suspensions et plus même dans même les boîtes et tout pour refaire une voiture totalement différente pour le dimanche. Et ça, on veut mettre un frein à ça pour justement garder des coûts raisonnables, bien qu'ils soient déjà quand même de plus en plus élevés comme tout augmente dans la vie, mais pour que ça reste avant tout suivant les paramètres que nous avons voulu créer des Legends. Alors, le règlement général, il y a aussi des changements. Pour les slow zones, on avait mis au début une pénalité assez importante. Bon, c'est vrai que maintenant, on voulait aussi éviter que les pilotes n'en tiennent pas compte. Ici, bon, je pense que c'est bien rentré dans les mœurs. D'ailleurs, nous avons quand même le grand plaisir de voir que notre petite création a fait des petits jeunes dans un petit championnat qui s'appelle le WRC, hein, comme ils l'ont encore fait ce week-end après la Finlande. Cette idée des slow zones, ben voilà, c'est quand même, on aurait dû la déposer, hein, Eric. Et c'est, je peux vous dire qu'auprès des autorités, ils sont ravis. Tout à l'heure, on va encore rencontrer le gouverneur pour une deuxième réunion de préparation déjà. Et il y a des tas d'endroits que si on n'est pas les slow zones, on ne pourrait pas passer. Et donc, au lieu, c'est ce qui nous permet aussi de faire des spéciales de 25-30 km pour passer dans des zones délicates dans des villages. C'est beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus sportif de faire une slow zone qu'une chicane. Quoi qu'en disent certains, une chicane, c'est déjà un obstacle qu'on met sur la route qui représente un danger. Combien un ballon de 300 kilos, vous avez tous vu certainement des vidéos sur YouTube que ça devient un projectile quand une voiture le percute. Vous abîmez votre voiture si c'est des big bags. Ça se déplace un peu, ben, entre le premier et le 30e qui passe, la chicane s'ouvre et il y a déjà un problème d'équité sportive. La slow zone, c'est géré par satellite, ça se fait très bien. Et pour moi, en tout cas, je suis un fervent partisan et il est hors de question qu'on en change. Par contre, aussi, la pénalité était quand même fort lourde et c'est pour ça que nous l'avons divisée par deux. Alors, en Legends et en Challenger, pas grand-chose à dire, mais nous avons ajouté deux marques de pneus supplémentaires. Nous restons toujours pour toutes les catégories, évidemment, sur la règle du pneu neige, mais il y a des marques bien définies pour Legends et Challenger et nous avons ajouté deux marques. Il faut savoir que le problème est de plus en plus, et on a déjà eu des échos. pour les concurrents qui roulent, il y a intérêt qu'ils se réveillent vite, parce qu'en 13 pouces, les pneus neige, ça devient de plus en plus rare. C'est pour ça que nous avons mis deux marques supplémentaires. Il y a déjà alerte rouge chez les spécialistes en pneus quand vous leur parlez d'un pneu neige 13 pouces aujourd'hui. Alors, on va aller catégorie par catégorie, avec du sans surprise et avec des petites et plus grosses surprises. Classique 50. Classique 50, il n'y a pas de surprise du tout. Nous repartons exactement sur le même schéma, même réglementation et tout. Il y a juste les pénalités, je vous ai dit, pour les slow zones, pour toutes les catégories qui sont réduites de moitié. Classique 65, pourquoi changer une formule qui gagne et qui est maintenant reprise dans de nombreuses manches du BRC à travers le challenge VSC, le championnat VHRS. Donc la catégorie 65 reste telle qu'elle l'est. Les challengers, eh bien là aussi pas de changement. Vous voyez, je veux dire que pourquoi vous êtes venu ici, mais attendez, on vous garde le meilleur pour la fin, bien entendu. Challenger, je rappelle aussi, c'est 82 moyenne et un temps qui est pris uniquement sur le flying finish. Parce qu'il y a des rallyes, j'ai fait moi-même le Costa Brava où il y a 2 ans, et là ils vous prennent comme en classique 65, si vous voulez, 15 ou 16 points à l'aveugle de chronométrage, ce qui est assez compliqué, surtout sur des terrains comme ça, et que vous devez gérer en même temps les notes et les moyennes. Johnny Daly, à mon avis, sera d'accord avec moi et que finalement c'est plus facile de rouler en vitesse pure en VHC que de faire ça. Mais ici, c'est le 80 sur la ligne d'arrivée. Je pense que c'est bien de repréciser quelles sont les règles parce que maintenant, il y a 20 ans, les Legends étaient toutes seules, mais maintenant il y a tellement d'épreuves historiques que c'est bien de comparer ce qui est comparable. Les Young Timers, c'est une catégorie qui disparaît. Il y en a qui partent, il y en a d'autres qui arrivent. Et puis, il y a des refontes de catégories. Mais n'ayez crainte, ils ne sont quand même pas totalement oubliés. Alors, la suivante, ça, c'est de sa faute. C'est lui. Il m'a fait une connerie, ça. Je peux me le permettre de le dire ainsi, sans même m'en parler. 1er avril 2024. Je ne sais pas si ça vous dit. Surprise. Et puis, je n'arrête pas de recevoir des coups de téléphone. Ouais, super idée et tout. Mais je dis, mais attendez, mais même de genre, je pense, Daku m'appelle et tout. C'est génial ce que vous faites tout. Je dis, quoi? Je n'avais pas encore été voir Speed Action. Désolé. Je vois. Je dis, mais non, mais c'est une connerie, hein, c'est le poisson du 1er avril de M. Franzen, hein, ceci. Ouais, mais vous devez le faire et tout. Mais enfin, mais c'est pas vrai, non, tu me racontes aussi un poisson d'avril, vous le faites. Mais sinon, enfin, je dis qu'on ne le fait pas. Et puis bon, j'ai eu tellement de coups de téléphone, et puis je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, en plus, le calendrier tombant à la perfection, il est clair qu'on a consulté la ville de Bastogne parce qu'on touche un sujet sensible et le devoir de mémoire, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis tout le monde trouve, finalement, c'est assez fun, et c'est vrai que c'est aussi un vrai hommage. Et c'est ça que, en cette année du 80e anniversaire, nous allons faire le tribute Battle of the Bulge. Donc c'est la bataille des Ardennes. Et donc nous allons ouvrir une catégorie, accrochez-vous, ouverte au Jeep Willys. Et ce n'est pas plus un poisson d'avril, c'est une véritable réalité. Et donc là, évidemment, on ne va pas les faire rouler en vitesse pure, ni à 65 km/h. Ils auront quand même un vrai classement, parce qu'on va les faire rouler avec une moyenne de 30 km/h. Dites-vous bien que c'est quand même tout un programme. La seule chose qu'on leur demande, c'est de ne pas avoir quand même un casque militaire, mais un vrai casque. Vrai casque, un casque moto est bon, mais le casque militaire c'est quand même fort léger. Ils ne devront pas avoir un toit rigide forcément, et ils feront une partie beaucoup plus réduite du rallye, qui se répercute également évidemment sur le montant du droit d'engagement, et on veut se limiter à une quinzaine d'autos. Et ils auront on avait déjà 2 rallyes ici pour corser le tout, on va faire un 3e rallye, ils auront un programme un peu mixte. Des fois on les verra après les Legend Challenger, et des fois après les classiques. Bon, bah, c'est pour eux l'occasion peut-être d'aller dans les belles forêts ardennaises, hein, je crois que où normalement ils ne peuvent pas aller. C'est un clin d'œil, c'est le 80e anniversaire de la bataille des Ardennes qu'il ne faut jamais oublier. Et c'est aussi un petit peu après, quand on fait Legends Book for Nature, Legends Book for Women, ben c'est aussi un peu où les Legends qui veulent, on est vraiment maintenant, comme vous le savez, qu'on aura un troisième événement après le rallye, la balade et le circuit des Ardennes dès l'année prochaine à Bastogne. On est vraiment maintenant dans la région d'ailleurs, même on est en province de Luxembourg, ici à Barvaux. On fait vraiment partie de la vie sociale. Bon, c'est il y a 15 jours, on avait le chapitre des RG, j'en ai encore un peu mal la tête, mais enfin. Donc, c'est à nous aussi de reconnaître ce qui est important pour la ville de Bastogne et que c'est, je crois que c'est ce qui est le plus connu. Ça restera, ça l'est, la bataille des Ardennes. Et donc, on arrive au plat de résistance, les Legends. Et alors là, on peut parler de Legends 2.0. Je crois que depuis 2007, je peux dire, parce que 2006, bon, c'était l'année, on peut parler d'année zéro des Legends où tout était mis, où on s'est un peu comporté, c'est vrai, en flibustier. Mais pour les Legends, c'est le plus gros changement, je pense, depuis la création de la catégorie en 2007. On a quasiment mis tout par terre de ce qui existait et on a remonté, il y a toujours des escortes, si on est là, on ne va pas faire rouler des WRC2, n'ayez crainte. Mais on peut dire que quasiment tout change et la philosophie même de la compétition change. Alors, on a déjà pour commencer, si ça veut bien avancer, attendez, voilà, on a un nouveau système pour le calcul du classement qui est inédit. Ce n'est plus de la moyenne, ce n'est plus du target time, mais ce n'est pas non plus des classements type VHC qui collent à ce qui est l'équivalent de ce que vous avez en BRC ou en WRC. Et donc, en fait, parce qu'il y a, nous privilégions toujours une équité sportive et essayer de faire rouler, et vous allez vite comprendre le pourquoi aussi, différentes tranches d'âge d'auto, on n'est pas comme en épreuve moderne, on est en historique, et donc on doit faire cohabiter toute une gamme de voitures en donnant un peu les chances à chacun. Donc c'est un peu comme la BOP en circuit, mais nous qu'on fait sur base de coefficients forfaitaires que nous avons déterminés. Et donc en fait, si nous appliquions un véritable temps scratch, eh bien nous aurions appliqué un coefficient sur des voitures qui faisaient, et il y a des voitures qui sont susceptibles de faire toujours le meilleur temps. Et donc quand on a le premier, et si vous faites du scratch à 0 point, donc vous faites un coefficient, on met 1000 sur 0, ça reste toujours 0. Et donc c'est ça que, ici, le classement, ça va peut-être être très impressionnant à la fin, parce que ça va faire des milliers de points, mais nous allons convertir le temps en points. Donc si vous avez un temps de 5 minutes 30, si je sais toujours compter, ça fait 330 points. Sur lequel nous allons appliquer les coefficients. Ça n'a l'air de rien, mais je pense que c'est une sacrée révolution et que les classements, là, par rapport à ce qu'on a connu, on a fait des simulations pour ce que je vais vous annoncer par la suite. On n'a pas vraiment fait de simulation là-dessus, mais je crois que le classement ne serait pas le même si on avait appliqué déjà cette règle cette année. Ça modifie quand même fortement la donne. C'est clair que ça se rapproche encore un peu plus de la vitesse, mais ça, l'arithmétique fait que les choses changent. Alors voilà, ça c'est peut-être les parties les plus révolutionnaires. Alors, c'est vrai que c'est très anachronique au milieu des escortes et tout. Je suis un client d'Angelo, j'en ai une moi-même, donc je suis et je reste un amoureux de la Ford Escort et des voitures des années 70. Mais on doit bien. Et c'est un peu de la provoque ce que je fais, vraiment. Alors, j'ai vraiment choisi l'endroit pour annoncer ça. Il faut bien se dire que, voilà, les Legends, on les a lancés en 2006. Ici, ben, c'est parce qu'il y a eu le Covid qu'on n'a pas fait une édition, mais on serait en principe à la 20e édition s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc, quand même, la ligne du temps, tout le monde vieillit, nous tous, et aussi notre public. Il y a malheureusement ben, des gens du début qui ne sont plus là, que ce soit dans les concurrents ou les spectateurs. Et il y a pour une catégorie de personnes, ces voitures-là, ça ne leur dit rien du tout. Mais moi-même, quand j'ai commencé à organiser les boucles de Spa en 87, que j'ai pris la relève, ben, c'était déjà pas avec ces voitures-là, c'était des voitures plus récentes. On voit un peu ce qui se passe ailleurs sur les épreuves VHC en France, surtout le Costa Brava, mais là, qui vont vraiment beaucoup plus loin. Et puis, preuve que je pense qu'on n'est pas tout à fait con, c'est que la FIA a annoncé vendredi un grand bouleversement avec le changement de l'annexe K pour toutes les catégories. Et donc, s'ils avaient annoncé une semaine plus tôt, on aurait pu dire qu'on était. Mais pour vous avancer un projet qu'on a mûrement réfléchi, donc on peut dire qu'on était quand même avant eux, si même on fait l'annonce après eux. Et donc, on a complètement revu toutes les tranches d'âge, etc. Et c'est de dire que nous n'aurons plus de catégories d'âge. Et ça, c'est la première chose. On a fait depuis 2006, on était de 4, on était passé à 5 avec les catégories J2 qu'on avait rajoutées. D'abord les deux roues motrices, puis en acceptant également les quatre roues motrices. Mais bon, voilà les prix. Puis on a essayé cette catégorie Young Timers, qui, il faut bien l'avouer, n'a pas pris. Pas pris, pourquoi? Ça a quand même des raisons que, ben voilà, ils étaient un peu la cinquième roue de la charrette. Bon, c'est vrai qu'on les mélangeait au milieu des Legends et tout, mais ils étaient un peu perdus. Classement que tout le monde s'en foutait. Hein. Donc ici, on a voulu les intégrer, mais non, parce que voilà, c'est une évolution des catégories. Et donc, nous aurons 9 divisions. Et là, il y a une partie qui fait une référence à âge, mais aussi sur le type de transmission. Et vous allez voir avec le tableau. Donc c'est un mélange division, âge et transmission qu'on a fait. On a fait des simulations, et je veux vous rassurer, on a pris par exemple l'exemple en enlevant toutes les pénalités et les coefficients, vraiment sur base d'un classement brut, scratch, et on a essayé avec différents coefficients, et je crois que c'était quand même un bon exemple de ce que nous avions ici en 2024 avec la présence de Grégoire Domévius avec la Nissan Groupama, et dans ce cadre-ci, il aurait fait 8e au général, des deux catégories mixtes. Bon, on veut pas non plus, on privilégie toujours que ben, soit une MK1 ou une MK2, quand même, de leur donner toujours un certain avantage. Contrairement à ce que la FIA va faire, où il n'y aura pas de coefficient, et donc là, ça va devenir très difficile pour des voitures comme ça. Bon, je suis tout à fait humble et tout, mais au Costa Brava cette année, je me retrouve quand même dans la même catégorie que Simon Georges-Joseph avec une Impreza WRC sans coefficient. Ça fait bizarre quand même. Ici, ce ne sera pas le cas. Hein? Donc, on essaie de donner ses chances à tous, mais on veut aussi que, évidemment, si on veut rajeunir les troupes, il faut que ces voitures aient quand même une certaine possibilité de briller, d'être aux avant-postes. Et puis, il faut se dire qu'il y a mieux que la Nissan. Déjà, à l'époque, ce n'était quand même pas la meilleure auto. Quelqu'un qui va venir avec une Escort Cosworth, ça va beaucoup plus vite, quoi. Et donc, aussi pour parler aux générations actuelles ou les gens de 40, 50 ans qui ont découvert le rallye à l'époque des Groupas et des belles Groupas. Et donc, on essaye, voilà, mais je vois que ailleurs aussi maintenant, la FIA a franchi le pas. Donc, je pense que nous ne sommes pas dans le mauvais. Et donc, voici, on a créé, je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est. Et donc, on a ces 9 divisions. La première va jusqu'au 31 décembre 61. Et là, par contre, on s'est aperçu, ils avaient un coefficient de 0,95. On a redescendu pour une très vieille, pour réavantager une très vieille. Les divisions 2, 3, 4, enfin 2 et 3 restent des divisions, je dirais, où c'est quand même le gros du plateau et reste un coefficient 1. Donc c'est en fait les voitures de 62 à 71 et le gros morceau, la division 3 avec les 72, 81, vous avez les MK1, les MK2, beaucoup de Porsche, mais déjà pas une Ascona 400. Et alors après, déjà voilà une première nuance, c'est les autos qui vont jusqu'à 86 où les choses changent. Et là, on a fait une distinction en deux roues motrices et quatre roues motrices. Parce qu'avant, on mettait des coefficients aux classes et tout, et ça devenait vraiment une usine à gaz et c'était même compliqué pour les classements. Parce que vous avez c'était impacté sur les classes, mais pas sur le général et tout, les classements. Vous voyez, je vois Yost qui fronce ses sourcils. Il y avait d'autres coefficients au départ que le coefficient d'année.
Une petite question. Le groupe B reste interdit.
Les groupes B... Oui, mais on va y arriver. Hein. Et donc, ça, c'est la division 2. Donc, exemple, une Manta 400. Donc, groupe B, 300 chevaux, celle-là autorisée. On arrive à la division 5. Ça, c'est la même période, mais en 4 roues motrices. Exemple, Visa 1000 pistes. Et là, il y a déjà un petit coefficient, c'est 1,05 multiplicateur. Alors, nous arrivons dans les J2, hein, la catégorie FIA J2, donc qui sont les 87 à 1990. Exemple, BMW M3, Sierra Cosworth, avec deux roues motrices. Là, c'est la division 6 et on a le même coefficient que la division 5 pour les pré-86 quatre roues motrices, soit 1,05. La division 7, on reprend donc la même période de 87 à 90. 87 à 90, mais 4 roues motrices. Donc, exemple, Mazda 323, première Lancia Delta HF. Hein. Je pense qu'elle est toute première intégrale. Si, la toute première, parce qu'en 87, ce n'était que. Dès 88, ils sont passés en mode intégrale. Mais c'était la 8 soupape. C'est pas la 16 soupape. Il y a sous les bâches, je ne veux pas parler, mais enfin, une Sierra Cosworth 4x4,
hein,
ou 10-200, voilà. Et là, celle-là, elle se retrouve avec un coefficient de 1-1. Coefficient de 1-1 qui va se retrouver pour aussi la division 8, où là, on va beaucoup plus loin, on va jusqu'au 31 décembre 2000. Donc, on s'aligne sur les règles de la FIA. Et donc là, ben, vous allez avoir, avec un coefficient d'un 1, ça commence avec des voitures qui commencent à aller fort. Ça peut être comme j'avais eu l'occasion de Costa Brava d'avoir devant moi, une Astra Kit Car, par exemple, une Xara Kit Car, enfin, tout ce qu'on appelle les Kit Car de ces années-là. Et aussi, ben, ces autos des années-là, de roues motrices. Ça commence déjà à faire des voitures, bon, 306, il y a aussi des gens qui ne vont pas du tout les mettre dans la terre. Mais bon, il y a quand même une bonne catégorie d'autos nouvelles qu'on peut accueillir. En division 9, ben là, on est parti et jusqu'au 31 décembre 2000, 4 roues motrices où on est à 1,15. Et là, ben, c'est les groupes A 4x4, mais aussi les premières WRC 4x4. Donc, tu n'es pas étonné, une Corolla WRC, une Escort WRC, une Focus WRC, bon, on rêve peut-être, mais... Vous savez que dans mes casquettes, moi je, par exemple, j'ai mon relation concurrent en Clio Cup International, il a une vraie Clio ex-Ragnotti, la Diac et tout, la Groupa. Je l'ai convaincu de venir faire Bastogne, donc lui il va se retrouver en division 8. C'est une super auto. Je crois que tout le monde aussi a envie de voir des autos comme ça. Il me dit, ouais, mais elle n'est pas historique, moi je fais des rallyes régionaux en France avec, mais je dis, ici tu vas pouvoir vraiment rouler. Mais c'est pas tout. Alors, on a, et là aussi il y a encore du changement, pour les divisions 8 et 9, en fait il y a les voitures qui ne correspondent plus à la fiche d'homologation avec un moteur de substitution, mais on doit garder le même nom de cylindre et pas de passage d'un Atmo à turbo. Exemple, les fameuses Escort Millington. Mais maintenant, il y a une nouvelle mode, c'est les Toyota Starlet Millington. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les Irlandais nous ont sorti ça. C'est encore plus fou que l'Escort. Que l'Escort, elle a 370 chevaux. Hein. Millington, puis il y a les KPG aussi, si c'est pas triste. Mais alors, on a des voitures qu'on a interdisées, qu'on a déjà eues, notamment quand Yves Loubet à Spa et a roulé sur une. Il y avait ce qu'on appelle les réplicas et kit car. Mais ne voyez pas le terme kit car au niveau FIA, mais plutôt au niveau bidouillage d'artisans anglais. Donc, comme il y a les Hawk ou différentes qui sont des répliques. Et en fait, il y en a beaucoup qu'on fait passer pour des vrais. C'est ce qu'on avait fait, avouons-le maintenant, qu'Olivier De Wilde avait fait en 2008. Ce n'était pas une vraie Stratos, celle de Loubet. C'était en fait une Hawk. Qui était une... Et ça existe de plus en plus. Et donc, ces autos, on se dit, bah, voilà, maintenant, comment on passe, c'est qu'on a quand même une Millington ou ça, finalement, c'est pas vraiment des autos d'époque. Mais bon, ça a le look, voilà, d'une auto d'époque. Et donc, nous allons réautoriser ce genre d'auto. Et on en a déjà eu dans le passé. On avait voulu jouer le puritanisme et qu'on avait évidemment bloqué ces voitures. Mais elles vont être de nouveau autorisées. Et donc, suivant que c'est une deux roues motrices ou une quatre roues motrices, elles seront versées en division 8 et 9. Voilà ce qui nous fait quand même pas mal de changements réglementaires et d'esprit. Vous voyez, on ne s'endort pas sur ses lauriers au RAC Spa. Ça a été mûrement réfléchi, je peux vous dire. J'ai passé des heures et des heures avec des tableaux Excel, des simulations. Eric a regardé, on a demandé des conseils aussi. On ne les citera pas, mais à plusieurs équipiers qui jouent les premiers rôles, que ce soit au sud ou au nord du pays. Forcément, Angelo, je l'ai consulté aussi pour voir ce qu'il en pensait. Et donc, on essaye de rassembler le plus grand nombre et des autos mythiques. Et voilà, si vous voulez. Une Escort Cosworth ou une Corolla WRC, c'est quand même, c'est un mythe pour beaucoup de gens. Et de revoir ça sur les routes à Mastogne, ça ferait quand même plaisir à beaucoup de monde. Pour venir jouer et qu'on se dit, ouais, tout le monde va se foutre de moi, on ne parlera même pas de moi, hein, parce qu'il faut bien le reconnaître quand ils étaient en Young Timers. Ici, ils vont, voilà, ils vont pouvoir jouer sans venir et atomiser tout le monde. Maintenant, vous comprenez le pourquoi qu'on a changé le système de classement. Parce que le gars qui vient avec une Corolla WRC ou une Escort Cosworth double, mettez Bruno Thierry sur une Escort WRC, il est scratch partout. Et donc, scratch point coefficient, c'est toujours zéro. Et donc, ça n'aurait pas été. Mais ici, ben voilà, il aura 5,30 fois 1,15, quoi. Et donc, il prend quand même 15% de pénalité. Et dans ces simulations-là, ça reste acceptable. Il finira pas à 15e, mais le podium devrait toujours être pour ces bonnes vieilles grand-mères qui sont MK1, MK2 ou 911, parce qu'il ne faut pas non plus que j'ai trop de parti pris.
Aussi préciser, Pierre, que celui qui veut arriver avec ce genre de voiture doit quand même utiliser des pneus neige sur la voiture de série du commerce. Et donc, venir avec une WRC avec des pneus de commerce, il y a, voilà, ça va peut-être être un frein forcément et ça va être un handicap supplémentaire pour ces autos.
Mais ma question, désolé, les 205 T16, etc., les escarpes, ça reste
Non,
interdit.
ça reste interdit, oui, comme la règle veut de la FIA que le RACB suit. Et je vous avoue que je suis un peu perplexe, parce que je vous ai parlé, j'ai la photo, je peux vous montrer. Je roulais en VHC, donc au Costa Brava cette année, j'avais devant moi une Astra Kit Car, et dans mon rétro, c'est bien, hein, quand on est avant de monter au podium, qu'est-ce que j'avais? J'avais une Quattro S1 groupe B, donc la grosse avec les ailerons partout. Je comprends pas qu'en Espagne, ça roule, championnat d'Espagne, et là, il laisse rouler, or que c'est interdit par la FIA. Mais nous, en tout cas, et vous savez que le RACB est très strict, et veut suivre les règles FIA, comme évidemment la nouvelle catégorie qui maintenant ont accès, il faut savoir, donc comme la FIA l'a annoncé vendredi, que ce soit rallye ou circuit, hein, toutes ces voitures des années 1990 ont maintenant accès à avoir un PTH, donc passeport technique historique, FIA, comme les voitures d'avant 1991, ce qui était toujours le cas. Ah oui, 0,37, ben déjà. Oui, c'est un 0,37, il n'y a pas de problème.
de la Quattro qui était dans ton rétro, c'était au moment du podium de départ ou d'arrivée?
Les nouvelles vont vite. Hein.
Tu veux bien le
mais
tu veux bien le
elle n'est pas ici, ça je peux vous dire. Bon, elle est clairement en carrosserie, mais elle n'est pas ici, donc je ne vous ferai pas le plaisir de montrer mon auto.
Donc,
quoi.
Plus sérieusement, les coefficients, ils ont été calculés.
Ouais.
Tu ne vas pas revenir dessus.
Non. Okay. Bah, pour l'édition 2025. Ouais, il est clair qu'on fera une réévaluation après l'édition 2025. Ah, mais je peux vous dire qu'on a eu deux, trois contacts avec... Non, mais ça, je laisse ça au Mans, etc., de changer après les essais les coefficients.
De toute façon, on parle toujours d'année d'homologation, pas d'année.
Oui, ça n'a pas changé. Mais on a été contacté par plusieurs concurrents parce que ben, les rumeurs vont vite. Il y en a qui ont changé leur fusil d'épaule et qui construisent spécifiquement une voiture en fonction du nouveau règlement. Donc je vous dis qu'on va vers de grosses surprises ici pour 2025. On change vraiment la donne, mais il est temps de... Il faut renouveler son public parce que ben voilà, il y a des gens malheureusement qui ne sont plus de ce monde. Ou qui viennent maintenant trop vieux pour venir sur un rallye, et puis il faut que ça parle, quoi. Et ça, ça commence à devenir compliqué, bien que, voilà, c'est magnifique, et je suis vacciné avec la MK1, moi-même une MK2, c'est déjà moins mon truc, mais il faut penser à tout le monde, une vue globale, générale, et il faut un peu redonner un coup de boost à l'épreuve, qu'il y en a, il faut bien reconnaître, un peu besoin, parce que si on n'avance pas, on recule. Hein. Et après 20 ans, il est temps de donner un grand coup de pied dans le derrière, et je crois que c'est ce qu'on fait cette année. Et ben voilà, on croise les doigts et on espère que ça prendra bien. Alors voilà, ben la suite, elle va être derrière moi, mais on va venir un petit peu d'abord vous... relancé, vous allez voir avec la vidéo qui a été faite à ce moment-là.
Mesdames, messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans la région de Barvaux. C'est un des ateliers d'Andes Motorsport. Avec ceci, vous allez me dire, c'est quoi? Eh bien, c'est une caisse nue de Ford Escort Mark II. Vous le savez, les légendes boucles à Bassogne ont ceci de particulier que chaque année, un pilote invité, un pilote de prestige, est au départ avec une Ford Escort Mark II. Eh bien, on a décidé avec le Royal Automobile Club de Spa et l'équipe qui entoure Pierre Delettre d'aller encore un peu plus loin cette année dans le concept, dans le projet et dans le challenge. On va tout simplement construire avec Andes Motorsport la Ford Escort Mark II des légendes boucles à Bastogne. De ceci, de cette caisse nue, au fil des semaines, eh bien, on va en arriver à quelque chose de similaire à ceci. Cette Ford Escort Mark II Group 4 qu'on a vu en action lors des Légendes Boucles à Bastogne 2024. Qui sera le pilote en 2025 de cette auto? Une fois qu'elle sera terminée, la Ford Escort des Légendes Boucles, un peu tôt pour le dire naturellement, d'autant plus qu'on aura le plaisir de vous accueillir, d'accueillir la presse lors de la première conférence de presse officielle des Légendes Boucles à Bastogne. Ce sera chez Andes Motorsport, ce sera à Barvaux. On vous présentera la voiture complètement terminée. Qui sait, peut-être à ce moment-là, on sera déjà en mesure de vous préciser le nom du pilote. Le décompte final a commencé d'une caisse nue. On va arriver à une belle Group 4. L'aventure, vous la suivrez bien sûr sur les réseaux sociaux des Légendes Boucles à Bastogne.
On n'a pas enregistré ça avant-hier. Enfin,
c'est du mois d'avril.
Une semaine déjà.
Voilà, bon, ben maintenant vous avez vu la vidéo, l'engin est derrière moi, et donc on va peut-être bouger la table, s'il y en a qui veulent faire des photos
ouais,
ou pas.
Voilà,
et on va, je vais demander à Angelo de me rejoindre, et on va avoir le plaisir de vous montrer l'auto.
On va se mettre devant et derrière, non?
Pas de petits commentaires avant?
J'aime pas.
Allez, 1, 2, 3. il a encore un peu de travail. Mais il a déjà son moteur, sa boîte, il n'y a plus qu'un peu d'assemblage.
On sait que le pilote
serait
dedans,
le nom. Vous auriez bien voulu avoir le nom, non, mais vous avez vu, elle a bien avancé depuis le mois d'avril quand même. Hein.
Allez,
alors, on va se mettre comme ça.
Merci beaucoup, je pense que une bonne tasse de café encore et une petite viennoiserie à votre disposition. Et toute question que vous voulez nous poser à Vincent, à Eric, moi-même et Angelo, on vous écoutera avec et répondra avec le plus grand plaisir. Merci à tous.
15 Jeep.
Ouais, maximum.
Il y a une vraie demande, oui.